après chaque rencontre, pour moi, c'est toujours la dernière fois.
Bon, la dernière fois, ça fait un moment que je l'entends, celle-là. Mais on rebondit comme des chats.
Chat perché nous rend sages.
Tu fais ta mamie conseil.
Et toi, tu fais ton jeune plein d'entrain.
Les filles, vous m'entendez?
Yes, sir. We hear you.
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez.
Una are to vous.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go away now.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Mon rapport au cinéma n'est pas prétentieux, je ne veux ni imposer une vision, ni même faire œuvre, ainsi soit-elle. Regard, curiosité, désir, le tout plongé dans le hasard, le meilleur de ses assistants, dit-elle. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Je ne suis jamais allée à Hollywood pour faire carrière, mais Hollywood vient de la couronner d'un lifetime achievement, l'accomplissement d'une vie de cinéaste. Alors bonjour Agnès Varda.
Bonjour Christine, bonjour Laurent.
Bonjour
première femme et première cinéaste française à recevoir cette statuette, pas d'achèvement mais une activité perpétuelle comme le prouve ce dernier film en date, Visage Village, désormais disponible et recevable en DVD, co-réalisé avec JR sur les routes de France dans un camion magique et le hasard toujours lui des rencontres, Agnès Varda, unique invitée ce matin et invitée unique. Agnès, nous vous ferons découvrir aussi une nouvelle cinéaste sur la planète, elle s'appelle Sofia Jama, son premier film, et quel film, Les Bienheureux, est sorti mercredi. À côté d'elle, d'autres nouveaux films, trois portraits de femmes, Mariana, L'Intrusa et La Fiancée du Désert, plus Un Crime dans l'Orient Express, Une Usine au Portugal et La Dieu d'un grand acteur américain, Harry Dean Stanton. Il est temps maintenant de rejoindre la Cité des Anges et Angelina.
You once said, you don't catch people's attention through normalcy. I feel I should say, on behalf of all of us, thank you for being everything but normal. For being unique and daring and exceptional, for being Agnes.
I'm slightly shy and delighted to hear all these beautiful words about me. Yes, it makes me feel good, I have to say. And I hear them in the middle of Oscar land. I want to thank the four bright, beautiful, and intelligent women who spoke. And I have a little question. Are there no men in this room who love me to speak up?
Où sont les hommes? C'était le 11 novembre dernier, Agnès Varda, in la Mecca du cinéma, à la cérémonie des Governors Awards, que vous a été remis cet Oscar d'honneur. Je le disais, à la première française et à la première femme réalisatrice. Vous réentendre, ça vous fait quoi?
Ça me fait rigoler. Parce que, effectivement, j'avais préparé un petit speech, mais j'ai improvisé. Oui, en vérité, je me sens très bien parce que ça fait de l'effet quand même. Mais ça me fait de l'effet comme si on m'avait propulsé là. Il n'y avait aucune idée d'orgueil, j'ai gagné quelque chose. Il y avait l'idée que c'est presque une plaisanterie. N'empêche que c'est une petite cellule des Oscars qui est très cinéphile et qui chaque année choisit. Ça s'appelle le Governor's Award, c'est pas un Lifetime Achievement.
Oui, non.
Ils choisissent un chef opérateur, un acteur, tout ça. Et donc, ils m'avaient choisi. Alors, ils votent ça. Il faut avoir plus de 66% des votes. Voilà, un truc comme ça. Et donc, je me suis retrouvée là. Mais il paraît que ça faisait plusieurs années qu'ils essayaient de me faufiler. Donc, ça veut vraiment dire que les gens qui m'ont choisi, c'est parce que c'est ce que j'ai fait. Et donc, la soirée était magnifique parce que tous les gens d'Hollywood étaient là. Mais c'est pas du tout comme la soirée fatale de février où ils sont tous, alors, en énervé parce qu'ils voudraient que ou gagner eux-mêmes ou gagner le... Donc, il y a un truc de compétition qui est électrique, électrifiant aux vrais Oscars. Alors là, ils viennent parce que c'est comme s'ils allaient à la cantine, les choix ont été faits, donc ils se retrouvent entre eux. Et il y avait dans la salle, et ça je me disais, moi qui n'ai jamais fait d'argent, un amoncellement d'argent. C'est-à-dire qu'il y avait Jennifer Lawrence, qui est la star la plus payée. Il y avait Tom Hanks, évidemment Steven Spielberg, Richard Gere, d'autres femmes très belles, Jessica Chastain qui a parlé. Et donc, toutes ces personnes représentées, 2 millions, 3 millions, 4 millions. J'étais en train de faire une espèce de amoncellement de valeur en argent, en dollars. Alors, j'ai été obligée de dire, moi, j'ai jamais gagné d'argent,
oui,
mais j'ai gagné beaucoup de prix. Et ça, c'est vrai que ça commence à bien faire, les prix, les statues. D'ailleurs, je vous ai amené pour vous faire rire. Voilà, c'est le format. Voilà, ça, c'est l'Oscar. Mais là, il a 15 centimètres. Parce
oui,
que
il est un peu
mais
ratifié.
En fait, il est grand, il est brillant comme ça. Et il pèse 3,9 kg, quand même.
Oui.
En tout cas, je l'ai pris comme quand même la reconnaissance de mon travail, par des gens de qui je n'attendais pas ça. Et les mots qu'ont dit Jessica, Angelina, je ne sais pas s'ils avaient écrit à d'autres gens, et après d'autres, même Steven Spielberg a parlé de moi. Alors on se dit, bon, mais qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il y a quand même plus de 60 ans que je travaille, et que je n'ai pas travaillé pour Hollywood, je n'ai pas eu les concepts de fabriquer des films qu'ils ont. Vous savez, j'ai fait des choses très marginales. Alors, dans la marge où je suis, je me sens très bien. Parce que dans cette marge, je suis très connue.
Mais c'est cette marge qui est récompensée, justement.
Bien sûr.
C'est une forme d'exotisme, mais sans pittoresque. Et c'est cette marge-là qui la récompense.
Oui, c'est pour ça. Et d'ailleurs, je voulais le dédicacer, puis j'ai loupé la ligne où je voulais le dire, que je dédicassais. Dédicacer à tous ces jeunes qui se battent pour un cinéma comme ça, qui est un peu hors norme, hors code. Et c'est comme ça qu'on aime, nous aussi, le cinéma des auteurs, des créateurs, des cinéastes.
Bien sûr.
À l'époque, vous avez réalisé notamment là-bas un fantastique film documentaire qui s'appelle Le Murmure. On va écouter la bande-annonce parce qu'il y a toute l'Amérique dans cette bande-annonce.
Vous me plongez en 1979
oui,
quand même.
Voilà. Ouais.
À Los Angeles, on peut voir un océan Pacifique et des palmiers sauvages, des Disneylands et des studios d'Hollywood. Moi, j'ai surtout vu des murs peints dans la rue, des murales. J'en ai fait un grand film en couleur et en musique. Un film où les murs bougent, où la ville danse, où ceux qui parlent rarement parlent. Murmure. Elle est Murals. Plan 1326, prise 1. Clap, on tourne, on a tourné. Au pays de Edison, des Indiens, des cowboys, des tueurs et des filmeurs, j'ai filmé des Indiens, des cowboys, des cosmonautes et des anges. C'est l'Amérique au pied du mur, avec ses métaphores et ses métamorphoses. Mais le musée dans la rue, sans porte ni ticket, est aussi sans gardien et sans protection. L'art du mural est éphémère. Il restera au moins un film. Murmure. C'est le « Autant en emporte le temps » du documentaire. C'est Ben Mur. C'est la cité sans voile, mais non sans mystère, non sans mystique. Non sans problème. Les murs, qui avaient déjà des oreilles, ont des yeux. Et une bouche. Ils disent tout. La bombe, la drogue, la police. Ils disent le capital et le jeu. La politique, et le sexe, l'amour, le mariage. Ils disent aussi la civilisation de l'image. Qui peint ces murales? Qui les paye? Qui les regarde? Si vous voulez le savoir, venez voir Murmure.
Ah non, c'est peut-être là-bas. Je ne sais pas si c'est une bande-annonce. Je ne me rappelle pas avoir dit ça, mais je l'ai dit, bien sûr.
Mais oui, parce qu'on l'a entendu.
Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des images. Quand je dis... ces mots espacés, comme ça. On voyait un mural de violence, on voyait un mural de politique, on voyait un mural d'enfant, un petit mariage de Mexicain, tout ça. C'est-à-dire que j'aime bien faire des commentaires, parce que les images. On dit qu'elles parlent toutes seules, oui, mais quand on pousse un peu, les gens les regardent un peu autrement. C'est tout le débat d'ailleurs dans les documentaires. Est-ce qu'il faut dire quelque chose ou se commence taire ou se taire. Mais moi, j'aime mieux commentaire que se taire. Et donc, je trouve que ça fonctionne. Maintenant, ce film-là, c'est rigolo parce que personne parlait des peintures sur les murs en 79. J'avais même demandé au musée, ils n'avaient même pas d'archives, il n'y avait pas de livres. Et 3-4 ans après, ça a commencé. Maintenant, alors non seulement il y en a partout, maintenant ils sont dans les musées. Ouais. Donc ce n'est plus la peinture spontanée et gratuite. Mais c'est beau parce que on est dans une civilisation d'images. On est bombardé d'images. Mmh. Et toutes celles-là sur les murs, et c'est comme ça aussi d'ailleurs que j'ai connu GR, qui a fait d'énormes choses et qui m'avait bien plu. Donc, les gens d'images, ça en fait partie. Et ce n'est pas tout à fait la peinture, l'art des musées. C'est quelque chose spontané, de moins en moins spontané, de plus en plus récupéré. Mais ça donne de la vie à la ville et ça donne quelque chose à regarder. Enfin, je trouve que c'est bien, mais c'est drôle que vous ayez ressorti ce commentaire. Je me souviens pas que j'avais dit que c'était Ben Mur. C'est pas mal, ça.
Pas mal, hein. Ah, oui.
Et qu'est-ce qui rapprocherait JR, 35 ans plus tard que vous rencontrez?
Mais il l'avait vu. JR dit qu'il l'avait vu Murmure.
Mais alors, dans les ambitions artistiques de ces deux générations, vous voyez des points communs entre ces gens qui peignaient ces murs?
Mais bien sûr, il y a toujours d'abord le s'exprimer. Oui. Alors, de soi ou à travers d'autres gens qui s'expriment. Moi, j'ai fait des documentaires. C'est formidable de mettre des gens en situation de dire des choses qu'on n'entend pas toujours. Et ce que nous avons fait ensemble avec GM, qui s'appelle Visage Village,
qui est maintenant en DVD, on ne le dira jamais assez.
Ah oui, ça vient de sortir.
Bah oui, dites donc, mais oui.
Vous faites étonner, ne l'oublions pas.
Ah mais non, mais il faut,
dites donc. Mais bien sûr,
on est là
faut
pour vendre nos trucs aussi. Hein. Mais vendre nos trucs, c'est partager. Hein.
Bah, évidemment.
C'est pas tellement compter les entrées. C'est sentir la pulsation du public. Et on a eu des réponses magnifiques sur Visage Village. Des gens même qui applaudissaient dans des salles payantes, des gens, alors on suit des petits mots, toutes sortes de gentillesse à notre égard, parce que nous-mêmes, Gérard et moi, on avait le même but, c'est-à-dire mettre les gens en valeur, les gens qu'on a rencontrés, et en les écoutant, en les faisant parler, et avec les images de Gérard, en les faisant très grands, avec leur accord. Tout d'un coup, ils devenaient des géants ou des géantes, et cette idée qu'il faut mettre en valeur des gens qu'on n'écoute jamais. Bon, on sait bien que Il y a toutes sortes de travaux qui sont faits pour mettre en valeur les autres, mais quand même, on est dans un star system, on est dans un système d'argent, on compte les entrées et tout ça. Je comprends, mais nous, on essaie de faire un truc en grande liberté, et surtout, notre idée, c'était de mettre les gens en situation d'inventer eux-mêmes. C'est pas seulement question-réponse, c'est une conversation. Comme on a quelquefois entendu des gens dire des choses tellement inattendues et tellement belles qu'on avait envie de les remercier, d'avoir eu des idées.
Comme Jeannine, fille de mineur dans les corons.
Oh, bah, je suis la seule survivante du coron ici. J'ai dit que je partirais la dernière, puis je suis encore là.
C'est bien.
On ne me mettra pas dehors. Il y a trop de souvenirs, tout ça. J'ai dit, vous ne comprenez pas. Personne ne peut comprendre ce qu'on a vécu.
J.R. et Guillaume ont rassemblé des images anciennes de mineurs.
Et on a décidé de les coller en grand sur les maisons. Ici, on commence toujours par les pieds, pour bien les caler au sol.
Pour nous, c'est magnifique. Alors, moi, je vous dis tout de suite, pour moi, c'est magnifique.
Disons, en 56, j'allais sur mes 14 ans. Ah oui, j'étais un galibot. Le métier mineur, ça s'apprend, vous allez à l'école. Hein. 30 ans au fond de la mine.
Pour gagner la journée, il fallait boiser 150 étançons. Après, je suis allé au charbon. Là, c'était très, 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 très dur. J'ai souffert, incroyable.
Visage Village, Agnès Varda, il y a des installations parfois très éphémères qui sont emportées avec même la marée.
Mais là, par exemple, vous parlez du Nord. On avait mis comme ça des images de mineurs anciens sur toute la rue. Et Jeannine, sur sa propre maison. Mais elle est partie. Elle est partie, mais le film l'a mise en joie. Et quand on a projeté à Bruay, à Bruay là, Bruay-le-Bussière, le film, elle était au milieu, elle était la vedette de la soirée, parce que c'est elle qui avait eu l'idée de rassembler d'anciens mineurs. Mais le film est rarement sur le passé. C'était une séquence où il y avait cette force de mémoire. Mais on a plutôt essayé de voir des gens de ce qui se passait aujourd'hui, hein, parce que c'est pas un film au passé.
Et qu'est-ce que vous aimez dans cette idée d'éphémère, qui serait un peu le contraire du cinéma, même si des films ont disparu? Vous aimez cette idée d'éphémère?
Mais tout est éphémère, vous savez bien. Des conversations des fois magnifiques, et puis on n'est même pas sûr, surtout moi qui perds la mémoire. Je ressens ce truc de choses magnifiques qui ont disparu, j'ai oublié. Ça, c'est comme ça, c'est la nature du temps. Mmh. Et j'allais dire ce dialogue, c'est pas ce dialogue, cette relation qu'on a avec le temps, moi je l'ai travaillé en direct, Cléo de 5 à 7 du temps réel, et je l'ai travaillé en évoquant des choses anciennes, ou en parlant de gens qui avaient des projets. Mais on est là-dedans tout le temps, si j'ose dire, et c'est intéressant. Moi, ce qui me plaît, c'est ce travail qu'on a fait avec JR, c'est qu'il a été très bien reçu. Alors, on a présenté le film, on faisait un peu un duo de clowns, hein, parce que forcément, en vrai, il est tellement grand, je suis petite, je suis un peu ronde, il est très maigre, et on a quand même 55 ans d'écart. Donc, ça fait rire les gens. Mais en même temps, quand on a travaillé, il n'y a jamais eu une personne qui a trouvé bizarre qu'on travaille ensemble, parce qu'on travaillait bien. Je ne grimpe pas aux échelles, ça c'est sûr. Mais on parlait aux gens ensemble. On a tourné pendant 18 mois, une semaine par mois, pas plus que ça. Parce qu'après, je suis fatiguée. Mais c'était bien parce qu'entre-temps, on faisait autre chose. On a vécu ça comme une expérience discontinue, mais très heureuse. Et Rosalie, ma fille, qui a produit ça, elle nous a mis en situation qu'on puisse le faire. C'est très rare qu'on puisse faire un film comme ça. Et donc, EJR qui faisait autre chose, et moi qui faisais des expositions, on se trouvait bien de faire ça de temps en temps. Donc, on n'a pas été dans l'économie du cinéma où il faut faire 6 semaines bien serrées, surtout pas dépasser, pas faire d'heures sup. Donc, c'est cette liberté qui me fait du bien, moi. Il n'y a que comme ça que je peux travailler. Est-ce que c'est ça que les Américains du comité de gouverneurs, est-ce que c'est ça qu'ils ont choisi? Parce que oui, ça les épate un peu.
Bien sûr.
Et puis que j'ai duré quand même. Je ne suis pas encore par terre ou pas tout à fait.
Alors, justement, en voyant ce film, moi j'ai pensé, je ne sais pas si ça va vous plaire, à une fable de La Fontaine qui s'appelle Le lièvre et la tortue. J'ai l'impression que lui, c'est un lièvre, il va vite, mais vous, vous allez à votre rythme et vous arrivez toujours.
Oui, mais on n'a pas de but quand même. C'est
non, il n'y a pas de but.
J'arrive à rien, je me traîne, je suis d'accord. Mais...
Ah non, vous ne vous traînez pas, vous traînez. Si. C'est la tortue qui gagne à la fin. Hein.
Alors moi, c'est plutôt la poésie qui a été d'ailleurs évoquée pour Johnny Hallyday, à l'enterrement d'une feuille morte. Oui. Ils y vont si doucement qu'ils arrivent, c'est le printemps. Mmh. Et c'est une fête. Mmh. C'est plutôt comme ça que je vois le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas d'aller vite à la fête, c'est que quand on arrive, il y a une fête.
Ouais, c'est ça. Bien
sûr. Et donc le film finit a été pour nous une fête. Parce que on avait des projets et trucs. Et puis plus on travaillait, plus on s'approchait du but, particulièrement au port du Havre, où on a réussi à ce que ces machos costauds, ces dockers qui ne laissent même pas entrer les femmes dans le port, on a réussi qu'on célébrait les femmes avec des grands totems faits sur des conteneurs. Donc, et eux-mêmes, ils ont dit, ça pousse un peu les préjugés, ça pousse les marques. C'est ça l'idée d'ouvrir les rapports entre les femmes et les hommes, d'ouvrir entre les ouvriers et les autres. Donc on avait l'impression que, comme artiste, on faisait notre métier de créer du partage, des idées, de rendre les gens aussi inventifs que nous qu'ils sommes un peu, mais les autres aussi le sont, si on les pousse à ça. Donc c'est un film qui m'a fait grand plaisir, je suis obligée de le dire, et qui a un petit peu marché toujours là où on est, dans la marge heureuse.
Vous évoquiez Cléo de 5 à 7, dans lequel il y a un petit film avec Godard et Nakarina que vous montrez à JR, et c'est faux, encore une fois. Autre point commun, la ressemblance entre JR et Jean-Luc Godard.
Non, c'est les lunettes. Hein.
Oh, pas que les lunettes.
Godard était pas, qui était rigolo dans son cinéma, dans la vie, il n'était pas spécialement rigolo. Enfin, si. Enfin, on était très amis quand on était avec Jacques Demy et lui et Anna. On se voyait tout le temps, on faisait des blagues. Mais ça, c'est il y a longtemps, les gens évoluent, nous aussi. Donc, ce qui m'a semblé amusant, c'est qu'au début du film, quand j'ai compris que JR enlevait pas ses lunettes, je me suis rappelé que Godard, dans les années 60, n'enlevait jamais ses lunettes noires. Et que je lui avais fait envoyer, enlever une fois, dans un petit sketch qu'il avait accepté de faire avec Anna. Ah, mais là, il faut voir les images.
Oui, on aussi, on va l'écouter, on va écouter.
Raoul ! Il n'entend rien là-dedans. Raoul ! Raoul !
Oh ! Hé, attention, film. Voilà ma poupée.
D'amour?
Il y a longtemps, Cléo. Comment ça va? Vous arrivez bien toutes les deux, c'est le petit Finn. Tu sais, je t'en ai parlé. Je vous installe, c'est la fin.
Vous dérangez pas, Raoul, je ne fais que passer.
Mets-toi là.
Cléo, elle est malade.
C'est pas grave, au moins. Mettez-vous là toutes les deux, il n'y a pas de maladie qui tienne quand on peut rire un moment.
Rien que maman, alors. Parce que je dois encore aller chez Cafinos.
Alors, ils sont dans la cabine de cinéma et le projecteur leur montre un petit burlesque qu'on a fait en une journée.
Et qui raconte ?
Eh bien, c'est un couple, Anna et Jean-Luc, des amoureux, façon autrefois canotier, petit nœud, tout ça. Et il a ses lunettes noires, ses foutues lunettes noires. Et il voit une scène, mais quand il a les lunettes, il la voit en noir et blanc. Donc la blonde Anna est devenue une femme noire qui se casse la gueule et qui tombe et qui meurt. Alors, il est affolé complètement et puis il enlève ses lunettes noires et c'est de nouveau la très jolie Anna, toute blonde, qui rigole, qui trébuche, vient la chercher. Bon, donc c'est une petite amourette et jouée tellement bien par Jean-Luc et Anna et avec les autres qui étaient venus. Alors il y avait Samy Fray, il y avait
Brialy.
Daniel Delorme,
Yves Brialy aussi,
Yves Robert Brialy bien sûr. Ouais. Et le producteur Georges Bourgard, oui. Il conduisait l'ambulance et la voiture de Corbillard. Ils sont tous venus au pont McDonald, c'était à la Villette d'avant, et on voyait un petit canal, un train. Je me suis amusée à faire ça, et je voulais dans Cléo que ça... J'avais peur que les gens soient tristes, qu'elles attendent les résultats d'un examen médical. Alors, je voulais faire une petite pause, qu'on rigole un petit peu, puis qu'on reparte. Dès qu'elle sortait du cinéma, elle cassait un miroir, elle commençait à pleurer. Bon, j'ai toujours essayé de penser aux spectateurs qui voient les choses, les films, est-ce qu'on peut imaginer s'ils se lassent, s'ils s'embêtent, s'il faut faire... J'ai essayé de faire des documentaires assez courts, 1h20, parce que on embête peut-être les gens, on voudrait les emmener, faut pas les lâcher. Donc j'ai essayé de faire toujours relativement court.
On va parler d'une nouvelle vague un petit peu, parce que vous y appartenez, en même temps vous vous sentez différente de tous ces garçons.
Vous savez, c'est un nom qu'on a donné des années après, aux cinéastes de 60 à 70. Mais si, c'est pas comme les surréalistes, ou Dada qui avait une ligne de conduite.
Une cohérence.
Ou les Nabi, ou tout ça. Non, nous c'était des gens. Et moi, j'étais 3 fois de ma vie au Cahier du cinéma. Je ne peux pas faire partir d'un groupe. Alors, c'est comme la chanson, on est bande de coins, nous, tout seuls, mais Jacques Demy et moi, on était un peu, on était de nouvelle vague, mais c'est parce qu'on nous a dit ça après. Mais, bon, on m'a mis là-dedans, mais j'ai commencé avant, et je me suis jamais senti partie d'un groupe. Je trouve qu'on faisait pas le même travail. Ni René, voilà, qu'on peut pas mettre, on met tout ça dans la nouvelle vague, c'est pas, René Chabrol, c'est pas pareil.
Non, pas vraiment.
Et Dieu sait que Chabrol a fait un travail consistant, surtout le travail qu'il a fait contre et pour la bourgeoisie. Mais on n'était pas là-dedans du tout. Moi, j'ai toujours filmé des gens qui n'ont aucun pouvoir. Toujours. Ou des pêcheurs, ou plus tard des chômeurs, des squatteurs, des paysans. Parce que je pense que c'est ceux-là qu'on connaît moins bien. Et moi, j'apprends à les connaître, à les approcher. Et à les mettre un petit peu en valeur pour que d'autres gens les aiment. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Alors, au fond, c'est même formidable que certains documentaires, comme Les Glaneurs ou comme celui-là, rencontrent le public, parce que ça leur parle. Et J.R., qui est rigolo, et qui m'a bousculé un petit peu, c'était bien, parce que il m'a pas ménagé, c'est ça. Donc, c'était rigolo de se chiner l'un l'autre pendant le film. Alors, après, le DVD est sorti, j'ai fait, comme toujours, 3 petits suppléments qu'on appelle un bonus des bonnies.
Bien entendu.
Et il y a un boni à la Bibliothèque Nationale. Comme je vois pas bien, on avait essayé de faire sur les marches, de mettre des gens qui tenaient des lettres. Vous savez, les choses qu'on fait chez
l'ophtalmologue.
Et alors, dans le film, on voit les lettres qui bougent un peu, j'explique que c'est comme ça que je vois mal. Mais en fait, quand on est arrivé, tout le monde a chahuté. Et il y a un petit supplément où tous les gens sur les marches de la Bibliothèque Nationale trimballent ces lettres. Et je me dis, voilà, c'est les lettres modernes. Ça m'a fait rire.
Dès que vous avez filmé, vous vous êtes senti cinéaste, dès le début?
Premier jour. J'ai fait un plan avec des pauvres gens, des pêcheurs, avec une famille où il y avait plein d'enfants. Et il y a une photo de moi à genoux, devant la caméra, devant cette maison. Et j'ai eu le sentiment aigu, quand j'ai fait le premier plan, je me dis, mais c'est ça, Ça, je suis maintenant, à partir de maintenant, je serai cinéaste.
C'est-à-dire, on ressent, comme Beckett disait, je ne suis bon qu'à ça. Suis bon qu'à faire ça. Parce que Beckett disait ça. Beckett disait, pourquoi vous êtes écrivain? Il répondait, je ne suis bon qu'à ça.
Moi, je suis une artiste multimédia, si j'ose dire, parce que j'ai été photographe, mais surtout maintenant, depuis quand même 10-12 ans, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais je fais des expositions.
Si, nous sommes au courant, mais c'est l'image qui est le fil conducteur quand même.
Et le son aussi, quand même.
Et le son aussi.
Quand même, j'ai fait une chose avec des veuves, on mettait des casques, on écoutait des confidences. Si, l'image et le son, mais ce qui m'a intéressé, c'était de changer un peu de proposition. Oui. Le cinéma, on sait que c'est pour une salle avec un écran. Les propositions d'artistes que je fais, on attrape l'espace. Il y a des chaises, il y a des choses. Alors, il y a beaucoup moins de gens qui viennent dans une exposition. Mais c'est
un autre rapport.
Et j'essaie de chercher ça. J'ai fait des triptyques pour qu'on voit trois images en même temps, qu'on soit un peu troublé. En fait, je travaille un peu.
Vous avez dit, on va finir par là. Je n'ai jamais eu de problème d'inspiration. Dès que j'ai pas d'idée, je vais dans la rue.
Ben oui. C'est ce que font les gens quand ils sont pas contents. Ils vont dans la rue.
Oui.
Et quand j'ai pas d'idée pour faire un grand film, je vais dans la rue et du coup, je fais un documentaire. Parce que dans la rue, si on regarde la vraie vie, on trouve toujours des sujets formidables. Et c'est comme ça que très souvent, et puis peu à peu, d'ailleurs depuis l'an 2000, j'ai fait des installations et que des documentaires. Les vrais gens me fascinent, franchement.
Visage Village, le DVD est sorti, qu'on se le dise.
Qu'on l'achète.
Grand cadeau de Noël.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, et on se retrouve, on retrouve une jeune cinéaste et les autres sorties de la semaine après Cosmopike. There I lay beside the Great Dane, astray in the south, obsessed by your mouth. And you've been away for the fall. I've barely seen you at all. Impressions over you, blue like bikini at all. Shallow pain, but it's not deep down. Cigarettes while you're asleep now. I've taken less care, I feel weak now. You said you was flying to Milan in about a week now. I don't mind to reignite the fire besides from that weed we light. If you try to ask me why, the fact that I've lied and you're tired of that. That closure was the way she exposed my name. And now I'm supposed to tell you all them times and them places, but I'm still developing. Enveloped in the elephant of the room I'm already in. I don't give up, it's irrelevant. Been away before, barely seen you out. You come and see me at school and you'll realize that I'm no cool. Shallow pain, but it's not deep down. Cigarettes while you're asleep now. When I've taken less care, I feel weak now. You said you was flying to in about a yo. But I don't mind to reignite the fire. Besides from that we light. If you try to ask me why, the fact that I've lied and you're tired of that. I don't blame, I'm only claim. In a state that closure was the way. She exposed my name and shame. Now time is in their place, but I'm still developing. Enveloped in the elephant of the room I'm already in. I don't give a fuck, it's irrelevant. Different girls with the same issues. Chains, pearls and tissues. Would you change if I claimed I missed you? Words I love you is misused. A struggle in this new. Just wanna cuddle and kiss you. Now I'm double muddled and pissed too. I don't mind to reignite the fire. Besides from that weed we light. If you try to ask me why,
that I've lied and you're tired of that. I don't blame, I only claim to be in a state that closure was the way she exposed my name and shame. And now I'm supposed to tell you all them times and them place, but still the feather pen. Enveloped in the elephant of the room I'm already in. I don't give a, it's irrelevant.
Pour entamer ses sorties, célébrons ensemble la naissance d'une cinéaste. Elle s'appelle Sofia Djama et filme dans Les Bienheureux. Son premier film donc, Alger, quelques années après la guerre civile, à travers plusieurs personnages emblématiques sur une journée et une nuit. C'est courageux, intense, tendu, lucide. Ces portraits de celles et ceux qui tentent d'y croire ou ont perdu leur illusion ou sont désorientés face à l'avenir. Et comme l'ont pu faire les Roumains ou les Argentins après leur dictature, nous avons rencontré Sofia Djama.
Mais on a été heureux avant. Ça peut s'arranger pour moi.
Non, Samuel, on n'a jamais été heureux. On a eu peur, on a eu peur. On est trop abîmés pour le reconnaître.
Non, t'as oublié.
Non, Samuel, j'ai pas oublié. C'est toi qui as oublié toutes ces années sans travail à cause de ces fichus terroristes.
Je te parle pas de ça, je
Samuel,
te parle...
Samuel, s'il te plaît, laisse-moi parler. Toutes ces nuits à t'attendre en me tenant le ventre, en me disant que t'allais te recevoir une balle dans la tête. En rentrant des urgences, j'ai pas oublié. Tous mes copains qui se faisaient égorger les uns après les autres. Comme des moutons et qu'on pouvait même pas aller à leurs enterrements parce que on avait peur de se faire tuer dans le cimetière. J'ai pas oublié. De quoi tu me parles ? On est heureux. Tu refais l'histoire, Samir.
Bonjour, Sofia.
Bonjour.
Alger, quelques années après la guerre civile. Vous dites que c'est un mot qui est difficile à prononcer là-bas, la guerre civile.
C'est un mot qui ne se prononce même pas réellement, parce que d'un point de vue juridique, je crois qu'on n'a pas le droit... Non, je ne crois pas, je suis certaine, on n'a pas le droit de dire guerre ou guerre civile. On parle de tragédie nationale. Je ne sais même pas si moi-même j'ai le droit de le dire, de dire guerre et le formaliser constamment d'un point publiquement. Mais la réalité, c'est que ainsi que moi j'ai perçu la chose à l'époque quand ça se passait, j'avais le sentiment d'une situation de guerre. Et en discutant autour de moi avec des historiens, même les historiens ne s'accordent pas sur la terminologie. Certains disent oui, il y a eu guerre, d'autres disent guerre civile et d'autres disent terrorisme. Donc du coup, dans ce fratras-là, on n'arrive pas à poser la chose, le mot, et quand on ne pose pas le mot, on ne donne pas de sens. Ouais. Et les victimes ne peuvent plus se donner, n'arrivent plus à... ne peuvent pas, par nature, s'il n'y a pas de sens, elles ne peuvent pas avancer. Mais je n'avais pas envie de parler de la guerre civile, je voulais parler de l'après-guerre. Je voulais raconter l'état de sidération dans lequel les gens étaient à partir du moment où c'était fini. On parlait plus de terrorisme résiduel en Algérie. On disait terrorisme résiduel dans les années 2000, 2001, 2002. Et comme si 2-3 personnes de tuées, ça comptait plus. Tellement on avait été au plus fort des massacres, c'était 200 personnes. Et que 2-3, ça fait un plus ou de moins. Donc on parlait de terrorisme résiduel. Et le personnage de Fariel, pour moi, elle avait vécu le massacre de Bint Talha. Et je voulais la voir après. Je voulais voir après comment les personnages, chacun des jeunes comme des adultes, qu'est-ce qu'ils allaient faire de ce qu'ils ont vécu, comment ils le vivaient dans une situation dite de paix. Mais c'est une situation où la sécurité était posée. Et donc je filme des personnes qui sont plutôt abîmées.
Est-ce que évoquer ça dans un film maintenant, 2017, est-ce que vous craignez quelque chose?
Moi, je réfléchis pas à ça concrètement.
Certes, mais est-ce que... Objectivement, vous craignez quelque chose ?
D'un point de vue légal, non, puisque j'ai eu les autorisations de tournage, ils avaient le scénario. Après, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de salle en Algérie, très peu du moins, et donc du coup, le film va être très peu visible par nature. Mais après, il reste le territoire des ciné-clubs. La question va se poser quand la production française me donnera, j'espère très vite, la cession de droits temporaires pour que je puisse avoir un visa d'exploitation en Algérie. Je ne peux pas attaquer un système si je ne l'ai pas questionné. Donc moi, je suis très factuelle. Je déposerai la demande. échange avec le DVD. Et s'il me donne l'accord, tant mieux. S'il ne me donne pas l'accord, bah tant pis, bah, je ferai mes projections autrement. Et je prendrai mon bâton de pèlerin et j'irai ciné-club par ciné-club, association par association. C'est comme ça qu'il faut que le film soit vu. Moi, je tiens énormément aux associations parce que ça crée, c'est des espaces de débat. Et l'enjeu aujourd'hui en Algérie, c'est de débattre, de montrer qu'en Algérie, qu'elle n'est pas unique, c'est pas une vision unique, elle est plurielle, il y a plusieurs points de vue, il y a des opinions différentes, que les gens, c'est pas un bloc monolithique idiot, et qu'il y a des résistances, et dire voilà, j'ai fait un film, je suis algérienne, j'ai pas fait d'école de cinéma, donc je peux faire des choses, c'est quelque chose d'heureux. Le film existe, donc en soi, c'est un événement heureux.
Le film existe et c'est un sacré film, il s'appelle Les Bienheureux, Sophia Djama, avec Samy Bouajila, Nadia Cassi et Lina Koudri, qui a eu le prix de la meilleure actrice à la dernière Mostra de Venise. Les autres sorties de la semaine, Laurent, on va commencer par L'usine de rien de Pedro Pinho. Une nuit, les travailleurs, donc c'est au Portugal, surprennent la direction en train de vider leur usine de ses machines. Ils comprennent qu'elle est en cours de démantèlement et qu'ils vont bientôt être licenciés. Ce n'est pas un doc, mais une fiction tournée dans une usine qui a connu le même sort, incarnée par de vrais ouvriers qui rejouent leur vécu. Tournée en 16 mm, c'est à la fois politique et musicale.
Mais oui, la classe ouvrière n'est pas encore au paradis, contrairement à ce que certains croient, ou même en enfer, peut-être. Elle existe toujours, peut-être moins visible, y compris d'ailleurs au cinéma. On peut le déplorer, on peut le regretter. Il y a un temps où les cinéastes français faisaient chanter des grévistes dans des villes et dans des comédies musicales, et c'était un temps béni. C'est un réalisateur portugais qui fait la même chose, parce que les intermèdes musicaux sont très importants dans ce film. Ils sont comme une vraie respiration. C'est ça qui est extrêmement réussi, c'est le mélange de l'intime et du collectif, c'est-à-dire le passage permanent entre des histoires fictionnelles intimes de vie privée que ressentent et que vivent chacun des ouvriers, et puis effectivement ces moments collectifs de grève, de reprise du contrôle de l'usine, de faire en sorte que leur avenir leur appartient quand même. Et ce mélange-là est cinématographiquement même extrêmement réussi, avec, vous le disiez, un 16 mm qui donne du grain à la vie et du grain au cinéma, et là aussi on peut en être un petit peu nostalgique, mais le film n'est pas dans la nostalgie, bien évidemment, il est au contraire dans une sorte d'énergie extrêmement positive et qui apparaît comme telle tout au long de ce film qui, je le rappelle, s'appelle L'usine de rien et qu'on doit impérativement aller voir cette semaine.
Lucky de John Carroll Lynch, homonyme du grand David, qui est d'ailleurs acteur dans le film et surtout grand second rôle chez Scorsese, Eastwood, Grand Torino ou les Coen, Fargo. Lucky est un hymne crépusculaire à la acteur Harry Dean Stanton, interprète de Paris, Texas, dont c'est le dernier film, le visage et le corps rongés par la maladie, comme son personnage de vieux cow-boy solitaire qui fume dès le réveil des American Spirits. L'esprit américain, cigarettes, rasage, yoga, café, mots croisés et déambulation dans cette ville perdue en plein désert. C'est le quotidien de ce vieux misanthrope et rebelle, frappé d'une crise existentielle à 90 ans. Des rencontres, notamment pour évoquer sa guerre dans le Pacifique, une grande amitié avec David Lynch, donc vieil excentrique dans ce film. Des moments franchement drôles dans ce bar nocturne et peut-être la délivrance et l'apaisement au bout du chemin. On a l'impression que Harry Dean Stanton conclut la longue marche entamée dans Paris, Texas. Et du coup, Lucky se révèle être aussi un adieu à un certain cinéma que Stanton incarnait. Je n'ai pas souvent employé cet adjectif, alors je ferai une exception pour ce film. Oula. Bouleversant.
Bien.
Le crime de Lorient...
Je l'aimais, je l'ai rencontré.
C'est vrai.
Oh, mais c'est un homme fin comme ça. Ouais. Très fin, presque timide, c'est incroyable. Ouais. Ces acteurs.
Magnifique.
Ouais. Bel acteur.
Ouais. Le crime de l'Orient Express, on change de genre, de Kenneth Branagh. Un voyage dans l'Orient Express, un meurtre, 13 passagers, tous suspects, et Hercule Poirot qui se lance dans une enquête. Bref, une énième tentative de dépoussiérer Agatha Christie avec plein d'effets numériques. Pour pallier quoi? Eh bien, son côté désuet, à coups de fausses montagnes enneigées et de vieux acteurs botoxés, Johnny Depp inclus. L'ensemble est assez mécanique et vieillot, excepté le regard mélancolique que Branagh pose à la fin sous cette histoire, mais cela ne sauve pas le film.
Non, vraiment pas. Non. En 1974, Sidney Lumet avait déjà réalisé un de ses plus mauvais films, Le Crime de l'Orient Express, avec le même principe de mélanger des stars vieillissantes,
avec
genre Lorraine Bacall. Oui, avec Albert Finet, mais donc stars vieillissantes, Bacall, et puis en face d'elle, des jeunes comme Jacqueline Bisset. Branagh nous refait exactement le même coup cette année. Ça n'a réellement, strictement, aucun intérêt, c'est-à-dire que on peut peut dire vraiment que c'est un film raté. On va pas le dire de tous les mauvais films. Là, c'est vraiment.
Quand vous en parlez, c'est raté.
Ben oui, c'est vrai. Alors n'en parlons plus. Vous avez tout à fait raison.
Il faudrait parler que des films que vous aimez.
Bon, non, mais non, parce que ça voudrait dire qu'on aime tout. Ça, ce serait pas bien.
Non, mais. Il y a tellement de films qui sortent.
Certes.
C'est votre choix, c'est votre liberté de choisir.
Absolument. Mais on a.
Alors, un film qu'on aime. L'Intrusa de Leonardo di Constanzo. Naples aujourd'hui, Giovanna est travailleuse sociale combative de 60 ans. Elle fait face à une criminalité omniprésente. Elle gère un centre qui s'occupe d'enfants défavorisés et offre une alternative, jusqu'au jour où l'épouse d'un mafieux, Maria, en fuite avec ses deux enfants, se réfugie dans ce centre. Rarement, film n'aura décrit Laurent aussi subtilement, sans montrer la violence, la façon dont la Camorra terrorise quotidiennement la population et comment une femme face à cela ne détourne pas son regard, crée chaque jour une pédagogie pour préserver les enfants qui vivent dans cet environnement. C'est un personnage fascinant, empathique, complexe et dont on craint pour sa vie à chacun de ses déplacements. Ça, c'est un autre atout du film. Cette femme est incarnée, c'est le mot, par Raffaella Giordano. C'est une chorégraphe italienne.
Oui, qui a travaillé avec Pina Bausch, d'ailleurs. Aussi.
Elle lui ressemble,
oui, c'est vrai. Physiquement, oui, vous avez raison. Oui. Écoutez, c'est après Assembra, film italien qu'on avait beaucoup aimé, les Hirondelles qui vont annoncer un printemps italien, et on s'en réjouirait, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on a bien envie de voir des beaux films italiens. Le dilemme qui traverse le film, il est simple, c'est est-ce qu'il faut choisir la cohésion de la communauté ou la loi de l'hospitalité? Au fond, c'est ça dont parle le film, oui. Et avec beaucoup de pertinence, avec ce double portrait de femme qui évite un écueil extraordinaire. Non, il n'y aura pas une sorte d'histoire d'amitié un peu bêtasse entre ces deux femmes. Et ça, c'est vraiment formidable. Et la caricature est évitée. Et vous avez raison de dire, il y a une façon de créer l'angoisse, y compris quand rien ne se passe de dramatique, qui est vraiment folle, qui montre qu'il y a vraiment un cinéaste derrière ce film, et un très grand cinéaste.
Est-ce que les gens ressentent là-bas l'angoisse quotidienne?
Mais bien entendu.
La fiancée du désert, chère Agnès Varda, signée par deux jeunes réalisatrices argentines, Cecilia Attan et Valeria Pivato. Teresa, la cinquantaine, a toujours travaillé comme employée de maison au service de la même famille, jusqu'au jour où elle est contrainte d'accepter une place loin de Buenos Aires. Elle entame alors un voyage à travers l'immense désert argentin. Ce qui semble être le bout du chemin va s'avérer être une nouvelle vie et sa rencontre avec cet homme, Johnny.
Agnès Varda, bouchez-vous les oreilles, j'ai quelques petites réserves. Voilà, j'ai du mal à dire que le film est complètement réussi. C'est une histoire tellement minimaliste, tellement petite, où il ne se passe tellement rien, où tout est fondé sur des petites choses, on se croirait presque chez Philippe Delerme, qu'au bout d'un moment, hélas, on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'au bout du voyage. On quitte un peu les deux protagonistes pour ne pas assez s'intéresser à eux. C'est quand même un petit peu la faute des deux cinéastes. Mais enfin, c'est comme ça. Ça s'appelle La fiancée du désert.
Agnès Varda, ouvrez bien les oreilles, parce que je reparle de cette fiancée du désert. Jolie chronique en demi-teinte, ai-je pu lire ici et là, mais c'est tout le contraire d'une demi-teinte, cette histoire d'une vie sacrifiée, passée à se consacrer à celle des autres et donc à s'oublier. Et à 50 ans, Teresa qui va devoir se retrouver et se redéfinir. C'est énorme au contraire et sans bulldozer scénaristique, par touche et progressive petite révélation aux côtés de cet homme, deux vies minuscules perdues dans le désert, une introspection lumineuse, ni larmoyante, ni sentimentale, une révélation intérieure, observée, filmée sur le visage et le corps de cette femme, une caméra qui a réussi à capter ces micro-événements qui vont la faire vaciller. Un film épuré, magnifique, comme son interprète, Paulina Garcia.
Après, vous irez vous faire vous-même votre opinion en salle.
Oui, voilà. Bien sûr.
Oui, c'est le jeu, bien sûr.
Mais quand vous me conseillez.
Un autre portrait de femme, Mariana de Marcela Saïd, une quadragénaire issue de la bourgeoisie chilienne qui s'efforce d'échapper au rôle que son père puis son mari ont toujours défini pour elle, Laurent.
Sujet, propos vraiment fort, très très intéressant. Finalement, l'état d'ambiguïté dans lequel on se trouve en sortant du film, c'est certainement le propos principal de ce film, c'est l'ambiguïté. C'est-à-dire, entre le passé chilien, l'horrible passé chilien, le présent de cette femme qui est un adultère, ce qu'elle veut peut-être décrire de la vie dont elle rêve, mais qui n'est pas forcément justement en équation avec ce que le Chili a vécu et avec les fantômes du passé, tout ça est en clair-obscur, tout ça fait que c'est l'ambiguïté qui prédomine, tout ça fait qu'on n'est ni dans une vérité révélée, ni dans une négation, par exemple, du passé. C'est donc intéressant et ça nous laisse dans cet état-là. L'état au fond que décrit le film, nous y sommes tellement plongés qu'on en ressort avec cet état-là et avec peut-être une impossibilité à dire qu'on a totalement aimé ce film, mais une certitude, c'est qu'on ne l'a pas détesté.
Qu'est-ce qu'il y a de à celui-là? Celui-là s'appelle
Mariana, film chilien
de Marcela Saïd.
Oui.
Et on va finir. Bon, bah, alors on aime moins celui-là, mais moi j'aime mieux que Laurent. Bon. C'est Closette Monster de Stephen Dunne, l'histoire de Oscar, un jeune garçon solitaire et créatif qui, à 9 ans, est témoin d'un meurtre homophobe dans sa petite bourgade et un grand questionnement plus tard, parce qu'on le retrouve à 18 ans, sur sa sexualité lorsqu'il fait la connaissance de Wilder, un garçon de son âge, libre et fantasque. Oui, c'est assez arty et énervant, c'est vrai, mais en même temps, comme dirait l'autre, beaucoup plus modeste qu'un Dolan, moins criard, un récit initiatique, frais, naïf à certains endroits, une tentative colorée d'exorciser un parcours cruel. J'attends avec impatience les prochains films de Stephen Dunne. On va terminer avec un festival qui s'appelle Les Arcs, la 9e édition déjà, festival du cinéma européen, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 décembre, un jury présidé par Céline Sciamma, 20 000 spectateurs, 700 professionnels attendus, un grand rendez-vous franco-allemand, une sélection avec notamment La douleur d'Emmanuel Finkiel. Et maintenant le cadeau pour Agnès Varda.
Agnès Varda, on est heureux de vous offrir 6 œuvres de jeunesse de Oussia Oussienne, grand cinéaste que vous connaissiez, j'imagine.
Ah mais oui, merci.
Mais bien entendu, ça vient de paraître, c'est un coffret qui rassemble donc en 6 DVD, 6 œuvres de jeunesse avec des restaurations inédites, des préfaces de Jean-Michel Frodon, une analyse aussi de Jean Douché, plus un livret, tout ça, et chez Carlotta, ça fait partie, avec Village, bien sûr.
Et Carlotta, ils font du bon boulot.
Ils font du très bon boulot, voilà. Donc il y aura 2 DVD à acheter pour les fêtes, Village, et le coffret Oussia Oussienne, évidemment.
Merci d'avoir rappelé, merci beaucoup Agnès Varda d'être venue jusqu'à nous.
Il y a tellement de films, et vous en parlez avec énergie et vitesse. Est-ce qu'on a la possibilité de voir tous les films dont vous parlez?
Il faut choisir.
Il y a tant de films. On est d'une façon un peu injuste, obligé de faire des choix.
C'est vrai.
Et générique, je vous fais signe.
Ben, on me demande de lire et d'interpréter le générique final. Donc, c'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs, actrices, il y a des acteurs, actrices, il y a des scénaristes, des chefs opérateurs. Et non, mais non, parce que les chefs opérateurs, actrices, elles sont formidables. On en a en France des formidables. Alors, bon, les prises de vue sont des prises de son. Et alors, Sporto Cantès a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Martine Messonnier s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par Anne Weinfeld. Elle est produite et présentée par ici présent Christine Masson et Laurent Delmas, que je salue. Et moi, j'y étais à Agnès Varda, parce qu'il m'avait invité et j'ai pas dit non.